Platon, le banquet, deuxième partie. Permets-moi encore, Phèdre, dit Socrate, de poser quelques petites questions à Agathon afin que, m'étant mis d'accord avec lui, je parte de là pour faire mon discours. Je te le permets, dit Phèdre, questionne-le. Après cela, mon ami me dit que Socrate avait commencé à peu près ainsi. C'est mon avis, cher Agathon, que tu as bien débuté en disant qu'il fallait montrer d'abord ce qu'est Eros, puis ce qu'il est capable de faire. J'aime fort ce début. Voyons donc, après tout ce que tu as dit de beau et de magnifique sur la nature d'Eros, que je te pose une question sur ce point. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien ? Je ne demande pas s'il est l'amour d'une mère ou d'un père. Il serait ridicule de demander si l'amour est l'amour qu'on a pour une mère ou un père. Mais si, par exemple, je demandais si un père, en tant que père, est le père de quelqu'un ou non, tu me dirais sans doute, si tu voulais répondre comme il faut, qu'un père est père d'un fils ou d'une fille, n'est-ce pas ? Oui, répondit Agathon. Ne dirais-tu pas la même chose d'une mère ? Agathon en convint aussi. Laisse-moi donc, ajouta Socrate, te poser encore quelques questions, afin de te rendre ma pensée plus sensible. Si je demandais, voyons, un frère, en tant que frère, est-il ou n'est-il pas frère de quelqu'un ? Il est frère de quelqu'un. D'un frère ou d'une sœur ? Sans doute, avoua-t-il. Essaye donc aussi, reprit Socrate, à propos de l'amour, de nous dire s'il est l'amour de quelque chose ou de rien. Il est certainement l'amour de quelque chose. Garde donc dans ta mémoire, dit Socrate, de quoi il est amour, et réponds seulement à ceci. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour ? Il le désire, répondit-il. Mais, reprit Socrate, quand il désire et aime, a-t-il ce qu'il désire et aime, ou ne l'a-t-il pas ? Vraisemblablement, il ne l'a pas, dit Agathon. Vois, continua Socrate, si au lieu de vraisemblablement, il ne faut pas dire nécessairement que celui qui désire, désire une chose qui lui manque, et ne désire pas ce qui ne lui manque pas. Pour ma part, c'est merveille, comme je trouve cela nécessaire. Et toi ? Moi aussi, dit Agathon. Fort bien. Donc un homme qui est grand ne saurait vouloir être grand, ni un homme qui est fort être fort. C'est impossible, d'après ce dont nous sommes convenus. En effet, étant ce qu'il est, il ne saurait avoir besoin de le devenir. C'est vrai. Si en effet, reprit Socrate, un homme fort voulait être fort, un homme agile être agile, un homme bien portant être bien portant, peut-être pourrait-on croire que les hommes qui sont tels et possèdent ces qualités et autres semblables désirent encore ce qu'ils ont déjà. C'est pour ne pas tomber dans cette illusion que j'insiste. Pour ces gens-là, Agathon, si tu veux y réfléchir, il est nécessaire qu'ils aient au moment présent chacune des qualités qu'ils ont, qu'ils le veuillent ou non. Comment donc pourraient-ils désirer ce qu'ils ont ? Et si quelqu'un soutenait qu'étant en bonne santé, il désire être en bonne santé, qu'étant riche, il désire être riche, et qu'il désire les biens mêmes qu'il possède, nous lui répondrions, « Toi, l'ami, qui jouis de la richesse, de la santé, de la force, tu veux jouir de ces biens pour l'avenir aussi, puisque dans le moment présent, que tu le veuilles ou non, tu les possèdes. » Vois donc, quand tu prétends désirer ce que tu as, s'il ne veut pas précisément dire « je veux posséder aussi, dans l'avenir, les biens que je possède maintenant ». Il en tomberait d'accord, n'est-ce pas ? Je le pense comme toi, dit Agathon. Socrate reprit. N'est-ce pas aimer une chose dont on ne dispose pas encore, et qu'on n'a pas, que de souhaiter pour l'avenir la continuation de la possession présente ? « Assurément, dit Agathon, cet homme donc, comme tous ceux qui désirent, désire ce qui n'est pas actuel ni présent, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. Voilà les objets du désir et de l'amour.
Il est vrai, répondit Agathon. Voyons maintenant, reprit Socrate, récapitulons. N'avons-nous pas reconnu d'abord que l'amour est l'amour de certaines choses, ensuite de celles dont il sent le besoin?
Si, dit Agathon.
Outre cela, rappelle-toi de quoi tu as dit dans ton discours, que l'amour est amour.
Je vais te le rappeler si tu veux. Si je ne me trompe pas, tu as dit que l'ordre s'était établi chez les dieux grâce à l'amour du beau, car il n'y a pas d'amour du laid. N'est-ce pas à peu près ce que tu as dit?
En effet, dit Agathon.
Et avec raison, camarade, reprit Socrate. Et s'il en est ainsi, l'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur?
Il en convint.
N'avons-nous pas reconnu qu'il aime ce dont il manque et qu'il n'a pas?
Si, dit-il.
L'amour manque donc de beauté et n'en possède pas.
C'est forcé, dit-il.
Mais quoi? Ce qui manque de beauté et n'en possède en aucune manière, peux-tu prétendre qu'il est beau?
Non, certes.
Maintiens-tu, s'il en est ainsi, que l'amour est beau?
Je crains bien, Socrate, répondit Agathon, d'avoir parlé sans savoir ce que je disais.
Et pourtant, continua Socrate, tu as fait un discours magnifique, Agathon.
Mais réponds-moi encore un peu. Ne penses-tu pas que les bonnes choses sont belles en même temps?
Je le pense.
Eh bien, si l'amour manque de beauté et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté.
Je ne saurais te résister, Socrate, dit Agathon. Il faut que je cède à tes raisons.
C'est à la vérité, cher Agathon, dit Socrate, que tu ne peux résister. Car à Socrate, ce n'est pas difficile.
Mais je te laisse toi pour vous réciter le discours sur l'amour que j'ai entendu jadis de la bouche d'une femme de Mantinée, Diotime, laquelle était savante en ces matières et en bien d'autres. C'est elle qui jadis, avant la peste, fit faire aux Athéniens les sacrifices qui suspendirent le fléau pendant 10 ans. C'est elle qui m'a instruit sur l'amour. Et ce sont ces paroles que je vais essayer de vous rapporter en partant des principes dont nous sommes convenus, Agathon et moi. Je le ferai comme je pourrai, sans le secours d'un interlocuteur. Il faut que j'explique, comme tu l'as fait toi-même, Agathon, d'abord la nature et les attributs de l'amour, ensuite ses effets. Le plus facile est, je crois, de vous rapporter l'entretien dans l'ordre où l'étrangère l'a conduit en me posant des questions. Moi aussi, je lui disais à peu près les mêmes choses qu'Agathon vient de me dire, que l'amour était un grand dieu et qu'il était l'amour du beau. Elle me démontra alors, par les mêmes raisons que je l'ai fait à Agathon, que l'amour n'est ni beau, comme je le croyais, ni bon.
« Que dis-tu, Diotime ? » répliquai-je.
« Alors l'amour est laid et mauvais. »
« Parle mieux. Penses-tu que ce qui n'est pas beau soit nécessairement laid ?»«
Certes. »
« Crois-tu aussi que ce qui n'est pas savant soit ignorant ? » ?»«
Et ne sais-tu pas qu'il y a un milieu entre la science et l'ignorance ?»«
Quel est-il ? » ?»«
Ne sais-tu pas que c'est l'opinion vraie ?»
mais dont on ne peut rendre raison, et qu'elle est ni science, car comment une chose dont on ne peut rendre raison serait-elle science, ni ignorance, car ce qui par hasard possède le vrai ne saurait être ignorance.
L'opinion vraie est quelque chose comme un milieu entre la science et l'ignorance.
C'est juste, dis-je.
Ne conclut donc pas forcément que ce qui n'est pas beau est laid et que ce qui n'est pas bon est mauvais. Ainsi en est-il de l'amour. Ne crois pas, parce que tu reconnais toi-même qu'il n'est ni bon ni beau, qu'il soit nécessairement laid et mauvais, mais qu'il est quelque chose d'intermédiaire entre ces deux extrêmes.
Pourtant, dis-je, tout le monde reconnaît qu'il est un grand dieu.
en disant tout le monde, est-ce des ignorants, dit-elle, que tu entends parler, ou des savants aussi ?
De tous à la fois.
Et comment, Socrate, reprit-elle en riant, serait-il reconnu comme un grand dieu par ceux qui prétendent qu'il n'est pas même un dieu ?
Qui sont ceux-là, dis-je ?
Toi le premier, dit-elle, moi ensuite.
Et moi de reprendre, que dis-tu là ?
Rien que je ne prouve facilement, réplique-t-elle.
Dis-moi, n'est-ce pas ton opinion que tous les dieux sont heureux et beaux ? Et oserais-tu soutenir que parmi les dieux, il y en ait un qui ne soit pas heureux ni beau ?
Non, par Zeus, répondis-je.
Or, les heureux ne sont-ce pas, selon toi, ceux qui possèdent les bonnes et les belles choses ?
Assurément, si.
Mais tu as reconnu que l'amour, parce qu'il manque des bonnes et des belles choses, désire ces choses même dont il manque.
Je l'ai reconnu, en effet.
Comment donc serait-il Dieu, lui qui n'a part ni aux belles ni aux bonnes choses ?
Il ne saurait l'être, ce me semble.
Tu vois donc, dit-elle, que toi non plus, tu ne tiens pas l'amour pour un dieu.
Que serait donc l'amour, dis-je, mortel ?
Pas du tout.
Alors quoi ?
Comme les choses dont je viens de parler, un milieu entre le mortel et l'immortel.
Qu'entends-tu par là, Diotime ?
Un grand démon, Socrate. Et en effet, tout ce qui est démon tient le milieu entre les dieux et les mortels.
Et quelles sont, dis-je, les propriétés d'un démon ?
Il interprète et porte aux dieux ce qui vient des hommes, et aux hommes ce qui vient des dieux, les prières et les sacrifices des uns, les ordres des autres et la rémunération des sacrifices. Placé entre les uns et les autres, il remplit l'intervalle de manière à lier ensemble les parties du grand tout. C'est de lui que procède toute la divination et l'art des prêtres relativement aux sacrifices, aux initiations, aux incantations et à toute la magie et la sorcellerie. Les dieux ne se mêlent pas aux hommes, c'est par l'intermédiaire du démon que les dieux conversent et s'entretiennent avec les hommes, soit pendant la veille, soit pendant le sommeil, et l'homme savant en ces sortes de choses est un démoniaque, tandis que l'homme habile en quelque autre chose, art ou métier, n'est qu'un artisan. Ces démons sont nombreux, il y en a de toutes sortes, l'un d'eux est l'amour.
De quel père, dis-je, et de quelle mère est-il né ?
C'est un peu long à raconter, répondit Diotime, je vais pourtant te le dire. Quand Aphrodite naquit, les dieux célébrèrent un festin. Tous les dieux, y compris Poros, fils de Métis. Le dîner fini, Peña, voulant profiter de la bonne chère, se présenta pour mendier et se tint près de la porte. Or, Poros, enivré de nectar, car il n'y avait pas encore de vin, sortit dans le jardin de Zeus et, alourdi par l'ivresse, il s'endormit. Alors Peña, poussé par l'indigence, eut l'idée de mettre à profit l'occasion pour avoir un enfant de Poros. Elle se coucha près de lui et conçut l'amour. Aussi l'amour devint-il le compagnon et le serviteur d'Aphrodite, parce qu'il fut engendré au jour de naissance de la déesse, et parce qu'il est naturellement amoureux du beau, et qu'Aphrodite est belle. Étant fils de Poros et de Peña, l'amour en a reçu certains caractères en partage. D'abord, il est toujours pauvre, et loin d'être délicat et beau, comme on se l'imagine généralement, il est dur, sec, sans souliers, sans domicile. Sans avoir jamais d'autre lit que la terre, sans couverture, il dort en plein air, près des portes et dans les rues. Il tient de sa mère et l'indigence est son éternelle compagne. D'un autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon. Il est brave, résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruses toujours nouvelles, amateur de science,
plein de ressources, passant sa vie à philosopher, habile sorcier, magicien et sophiste. Il n'est par nature ni immortel ni mortel, mais dans la même journée, tantôt il est florissant et plein de vie, tant qu'il est dans l'abondance, tantôt il meurt, puis renaît grâce au naturel qu'il tient de son père. Ce qu'il acquiert lui échappe sans cesse, de sorte qu'il n'est jamais ni dans l'indigence ni dans l'opulence, et qu'il tient de même le milieu entre la science et l'ignorance, et voici pourquoi. Aucun des dieux ne philosophe et de désir devenir savant, car il l'est. Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas, et ne désirent pas devenir savants. Car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux que, n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Je demandais quels sont donc, Diotim, ceux qui philosophent, si ce ne sont ni les savants, ni les ignorants.
Un enfant même, répondit-elle, comprendrait tout de suite que ce sont ceux qui sont entre les deux, et l'amour est de cela. En effet, la science compte parmi les plus belles choses. Or, l'amour est l'amour des belles choses. Il est donc nécessaire que l'amour soit philosophe. Et s'il est philosophe, qu'il tienne le milieu entre le savant et l'ignorant. Et la cause en est dans son origine, car il est fils d'un père savant et plein de ressources, mais d'une mère sans science ni ressources.
Voilà, mon cher Socrate, quelle est la nature du démon. Quant à la façon dont tu te représentais l'amour, ton cas n'a rien d'étonnant. Tu t'imaginais, si je puis le conjecturer de tes paroles, que l'amour est l'objet aimé et non le sujet aimant. Voilà pourquoi, je pense, tu te le figurais si beau. Et en effet, ce qui est aimable, c'est ce qui est réellement beau, délicat, parfait et bienheureux. Mais ce qui aime a un tout autre caractère, celui que je viens d'exposer.
Je repris, il faut se rendre à ton raisonnement, étrangère, car il est juste. Mais l'amour étant tel que tu viens de le dire, quel service rend-il aux hommes?
C'est justement, Socrate, ce que je vais à présent tâcher de t'apprendre, dit-elle. Tu connais la nature et l'origine de l'amour, et tu reconnais toi-même qu'il est l'amour des belles choses. Mais si l'on nous demandait « Pourquoi, Socrate et Diotime, l'amour est-il l'amour des belles choses ? Ou, pour parler plus clairement, en aimant les belles choses, qu'aime-t-on ? Je répondis, les avoir à soi. Cette réponse, dit-elle, appelle une autre question qui est celle-ci. Qu'est-ce qu'aura celui qui possédera les belles choses ? Je répondis que je ne pouvais répondre au pied levé à une pareille question. « Mais si par exemple, dit-elle, substituons le mot « bon » au mot « beau », on te demandait « Voyons, Socrate, quand on aime les bonnes choses, qu'aime-t-on »«
Les posséder, répondis-je. Et qu'est-ce qu'aura celui qui possédera les bonnes choses ?» La réponse, dis-je, est plus facile. Il sera heureux. « C'est en effet, dit-elle, dans la possession des bonnes choses que consiste le bonheur. » Et l'on n'a plus besoin de demander pourquoi celui qui désire le bonheur veut être heureux. On est arrivé au terme de la question, ce me semble.
C'est juste, dis-je.
Mais cette volonté et cet amour sont-ils selon toi communs à tous les hommes? Et tous veulent-ils toujours posséder ce qui est bon? Qu'en penses-tu?
Je pense, dis-je, qu'ils sont communs à tous les hommes.
Pourquoi donc, Socrate, reprit-elle, ne disons-nous pas de tous les hommes qu'ils aiment, puisqu'ils aiment tous et toujours les mêmes choses, mais que les uns aiment et les autres non?
Cela m'étonne aussi, dis-je.
Cesse de t'étonner, dit-elle,
car c'est à une espèce d'amour particulière que nous réservons le nom d'amour, lui appliquant le nom du genre entier. pour les autres espèces, nous nous servons d'autres mots. Un exemple, dis-je. En voici un. Tu sais que le mot poésie représente bien des choses. En général, on appelle poésie la cause qui fait passer quelque chose du non-être à l'existence, de sorte que les créations dans tous les arts sont des poésies, et que les artisans qui les font sont tous des poètes. C'est vrai. Cependant, ajouta-t-elle, tu vois qu'on ne les appelle pas poètes, et qu'ils ont d'autres noms, et qu'une seule portion, mise à part de l'ensemble de la poésie, celle qui est relative à la musique et au maître, est appelée du nom du genre entier. Car cette portion seule s'appelle poésie, et ceux qui la cultivent, poètes. C'est vrai, dis-je. Il en est ainsi de l'amour. En général, le désir du bien et du bonheur sous toutes ses formes, voilà pour tout le monde le grand et industrieux amour. Mais il y a beaucoup de manières de s'adonner à l'amour, et de ceux qui recherchent l'argent, les exercices physiques, la philosophie, on ne dit pas qu'ils aiment et sont amants. Mais il y a une espèce particulière d'amour dont les adeptes et sectateurs reçoivent les noms du genre entier. Amour, aimé, amant. Il semble bien que tu aies raison, dis-je. On dit parfois, continua-t-elle, que chercher la moitié de soi-même, c'est aimer. Et moi je dis, mon cher, qu'aimer ce n'est chercher ni la moitié ni le tout de soi-même. Si cette moitié et ce tout ne sont pas bons, puisque les hommes consentent à se laisser couper les pieds et les mains quand ces parties d'eux-mêmes leur paraissent mauvaises, car ce n'est pas, je pense, à ce qui lui appartient que chacun de nous s'attache, à moins qu'il ne regarde le bien comme une chose qui lui est propre et fait partie de lui-même, et le mal comme une chose étrangère. Car les hommes n'aiment que le bien, n'est-ce pas ton avis ? Si, par Zeus, répondis-je. Donc, reprit-elle, on peut dire simplement que les hommes aiment le bien. Oui, répliquai-je. Mais ne faut-il pas ajouter, reprit-elle, qu'ils aiment que le bien soit à eux ? Il le faut ajouter, et non seulement qu'il soit à eux, continua-t-elle, mais qu'il soit à eux, toujours. Oui aussi. L'amour est donc en somme, dit-elle, le désir de posséder toujours le bien. C'est parfaitement exact, répondis-je. Elle continua, si l'amour est en général l'amour du bien, comment et dans quel cas appliquera-t-on le nom d'amour à la passion et à l'ardeur de ceux qui poursuivent la possession du bien ? Qu'est-ce au juste que cette action spéciale ? Pourrais-tu me le dire ? Si je le savais, Diotime, lui dis-je, je ne serais pas en admiration devant ta science et je ne fréquenterais pas chez toi pour m'instruire précisément sur ces matières. Eh bien, reprit-elle, je vais te le dire. C'est l'enfantement dans la beauté, selon le corps et selon l'esprit. Il faut être devin, dis-je, pour saisir ce que tu dis, et je ne comprends pas. Eh bien, reprit-elle, je vais parler plus clairement. Tous les hommes, dit-elle, sont féconds, Socrate, selon le corps et selon l'esprit. Quand nous sommes en âge, notre nature sent le désir d'engendrer, mais elle ne peut engendrer dans le lait. Elle ne le peut que dans le beau. Et en effet, l'union de l'homme et de la femme est enfantement. C'est là une œuvre divine, et l'être mortel participe à l'immortalité par la fécondation et la génération. Mais elle est impossible dans ce qui est discordant. Or, le lait ne s'accorde jamais avec le divin, tandis que le beau s'y accorde. La beauté est donc pour la génération une moire et une élitie. Aussi, quand l'être pressé d'enfanter s'approche du beau, il devient joyeux, et dans son allégresse, il se dilate et enfante et produit. Quand, au contraire, il s'approche du lait, renfrogné et chagrin, il se resserre sur lui-même, se détourne, se replie et n'engendre pas. Il garde son germe et il souffre. De là vient pour l'être fécond et gonflé de sève le ravissement dont il est frappé en présence de la beauté, parce qu'elle le délivre de la grande souffrance du désir, Car l'amour, ajouta-t-elle, n'est pas l'amour du beau, Socrate, comme tu le crois. Qu'est-ce donc ? L'amour de la génération et de l'enfantement dans le beau.
Je veux bien l'admettre, dis-je.
Rien n'est plus vrai, reprit-elle.
Mais pourquoi de la génération ? Parce que la génération est pour un mortel quelque chose d'immortel et d'éternel. Or, le désir de l'immortalité est inséparable du désir du bien, d'après ce dont nous sommes convenus.
Puisque l'amour est le désir de la possession perpétuelle du bien, il s'ensuit nécessairement que l'amour est aussi l'amour de l'immortalité.
Tout ce que je viens de dire, je l'ai recueilli de sa bouche quand elle parlait de l'amour.
Un jour, elle me demanda « Quelle est, à ton sens, la cause de cet amour et de ce désir, Socrate ? N'as-tu pas observé dans quelle crise étrange sont tous les animaux, ceux qui volent comme ceux qui marchent, quand ils sont pris du désir d'enfanter, comme ils sont tous malades et travaillés par l'amour, d'abord au moment de s'accoupler, ensuite quand il faut nourrir leur progéniture, comme ils sont prêts à la défendre, même les plus faibles contre les plus forts, et à mourir pour elle, comme ils se laissent torturer eux-mêmes par la faim pour la sustenter, et comme ils sont prêts à tous les sacrifices en sa faveur. À l'égard des hommes, ajoute-t-elle, on pourrait croire que c'est la réflexion qui les fait agir ainsi. Mais pour les animaux, quelle est la cause de ces dispositions si amoureuses ? Pourrais-tu le dire ?
J'avouais encore une fois que je l'ignorais.
Elle reprit, « Et tu penses devenir jamais connaisseur en amour, en ignorant une pareille chose ?»«
Mais c'est pour cela, Diotime, je te le répète, que je m'adresse à toi, sachant que j'ai besoin de leçons. Dis-moi donc la cause de ces phénomènes et des autres effets de l'amour. »
Si tu crois, dit-elle, que l'objet naturel de l'amour est celui sur lequel nous sommes tombés d'accord à plusieurs reprises, quitte ton air étonné, car c'est encore ici, comme précédemment, le même principe d'après lequel la nature mortelle cherche toujours, autant qu'elle le peut, la perpétuité et l'immortalité. Mais elle ne le peut que par la génération, en laissant toujours un individu plus jeune à la place d'un plus vieux. En réalité, même dans le temps que chaque animal passe pour être vivant et identique à lui-même, dans le temps, par exemple, qu'il passe de l'enfance à la vieillesse, bien qu'on dise qu'il est le même, il n'a jamais en lui les mêmes choses. Mais sans cesse, il rajeunit et se dépouille dans ses cheveux, dans sa chair, dans ses os, dans son sang, dans tout son corps. Et non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Mœurs, caractère, opinion, passion, plaisir, chagrin, crainte. Jamais aucune de ces choses ne reste la même en chacun de nous, mais les unes naissent, les autres meurent.
Mais voici qui est beaucoup plus étrange encore, c'est que nos connaissances mêmes tantôt naissent, tantôt périssent en nous, et que nous ne sommes jamais identiques à nous-mêmes à cet égard. Et même chaque connaissance isolée est sujette à ce changement, car nous n'avons recours à ce qu'on appelle réfléchir que parce que la connaissance nous échappe. L'oubli est la fuite de la connaissance, et la réflexion, en suscitant un souvenir nouveau à la place de celui qui s'en va, maintient la connaissance de façon qu'elle paraît être la même. C'est de cette manière que tout ce qui est mortel se conserve, non point en restant toujours exactement le même, comme ce qui est divin, mais en laissant toujours à la place de l'individu qui s'en va et vieillit, un jeune qui lui ressemble. C'est par ce moyen, Socrate, ajouta-t-elle, que ce qui est mortel, le corps et le reste, participent à l'immortalité. Ce qui est immortel l'est d'une autre manière. Ne t'étonne donc plus si tout être prit son rejeton, car c'est en vue de l'immortalité que chacun a reçu ce zèle et cet amour.
Après avoir entendu ce discours, je lui dis, plein d'admiration,
C'est bien, très sage Diotime. Mais les choses sont-elles bien réellement comme tu le dis ?
Elle reprit sur le ton d'un sophiste accompli. N'en doute pas, Socrate. Aussi bien, si tu veux considérer l'ambition des hommes, tu seras surpris de son absurdité, à moins que tu n'aies présent à l'esprit ce que j'ai dit, et que tu ne songes au singulier état où l'aimé le désir de se faire un nom et d'acquérir une gloire d'une éternelle durée. C'est ce désir, plus encore que l'amour des enfants, qui leur fait braver tous les dangers, dépenser leur fortune, endurer toutes les fatigues et sacrifier leur vie. Penses-tu en effet, dit-elle, qu'Alceste serait morte pour admettre, qu'Achille se serait dévoué à la vengeance de Patrocle, ou que votre Codros aurait couru au-devant de la mort pour garder le trône à ses enfants, s'il n'avait pas pensé laisser de leur courage le souvenir immortel que nous en gardons aujourd'hui ? T'en s'en faut, dit-elle. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est en vue d'une louange immortelle et d'une renommée comme la leur que tous les hommes se soumettent à tous les sacrifices, et cela d'autant plus volontiers qu'ils sont meilleurs, car c'est l'immortalité qu'ils aiment. Et maintenant, continua-t-elle, ceux qui sont féconds selon le corps se tournent de préférence vers les femmes, et c'est leur manière d'aimer que de procréer des enfants, pour s'assurer l'immortalité, la survivance de leur mémoire, le bonheur pour un avenir qu'ils se figurent éternel. Pour ceux qui sont féconds selon l'esprit, car il en est, dit-elle, qui sont encore plus féconds d'esprit que de corps pour les choses qu'il convient à l'âme de concevoir et d'enfanter. Or, que lui convient-il d'enfanter ? La sagesse et les autres vertus qui ont précisément pour père tous les poètes et ceux des artistes qui ont le génie de l'invention. Mais la partie la plus importante et la plus belle de la sagesse, dit-elle, est celle qui a trait au gouvernement des États et des familles, et qu'on nomme prudence et justice. Dans l'âme d'un homme, dès l'enfance, porte le germe de ses vertus, cet homme divin sent le désir, l'âge venu, de produire et d'enfanter. Il va lui aussi cherchant partout le beau pour y engendrer, car pour le lait, il n'y engendrera jamais. Pressé de ce désir, il s'attache donc au beau corps de préférence au lait, et s'il y rencontre une âme belle, généreuse et bien née, cette double beauté le séduit entièrement. En présence d'un tel homme, il sent aussitôt affluer les paroles sur la vertu, sur les devoirs et les occupations de l'homme de bien, et il entreprend de l'instruire. Et en effet, par le contact et la fréquentation de la beauté, il enfante et engendre les choses dont son âme était grosse depuis longtemps. Présent ou absent, il pense à lui et il nourrit en commun avec lui le fruit de leur union. De tels couples sont en communion plus intime et liés d'une amitié plus forte que les pères et mères, parce qu'ils ont en commun des enfants plus beaux et plus immortels. Il n'est personne qui n'aime mieux se voir de tels enfants que les enfants selon la chair, quand ils considèrent Homère, Hésiode et les autres grands poètes, qu'il envie d'avoir laissé après eux des rejetons immortels, qui leur assurent une gloire et une mémoire immortelles aussi. Ou encore, ajouta-t-elle, lorsqu'il se remémore quels enfants Lycurgue a laissés à Lacédémone pour le salut de cette ville, et on peut le dire, de la Grèce tout entière. Solon jouissez-vous de la même gloire pour avoir donné naissance à vos lois, et d'autres en jouissent en beaucoup d'autres pays, grecs ou barbares, pour avoir produit beaucoup d'œuvres éclatantes et enfanté des vertus de tout genre. Maintes temples leur ont été consacrés à cause de ces enfants spirituels. Personne n'en a obtenu pour des enfants issus d'une femme. On peut se flatter peut-être de t'initier toi aussi, Socrate, à ces mystères de l'amour, mais pour le dernier degré, la contemplation, qui en est le but pour qui suit la bonne voie, je ne sais si ta capacité va jusque-là.
Je vais néanmoins, dit-elle, continuer sans ménager mon zèle. Essaye de me suivre, si tu peux.
Quiconque veut, dit-elle, aller à ce but par la vraie voie, doit commencer dans sa jeunesse par rechercher les beaux corps. Tout d'abord, s'il est bien dirigé, il doit n'aimer qu'un seul corps, et là enfanter deux beaux discours. Puis il observera que la beauté d'un corps quelconque est sœur de la beauté d'un autre. En effet, s'il convient de rechercher la beauté de la forme, il faudrait être bien maladroit pour ne pas voir que la beauté de tous les corps est une et identique. Quand il s'est convaincu de cette vérité, il doit se faire l'amant de tous les beaux corps et relâcher cet amour violent d'un seul comme une chose de peu de prix qui ne mérite que dédain. Il faut ensuite qu'il considère la beauté des âmes comme plus précieuse que celle des corps, en sorte qu'une belle âme, même dans un corps médiocrement attrayant, lui suffise pour attirer son amour et ses soins, lui faire enfanter de beaux discours, et en chercher qui puisse rendre la jeunesse meilleure. Par là, il est amené à regarder la beauté qui est dans les actions et dans les lois, à voir que celle-ci est pareille à elle-même dans tous les cas, et conséquemment à regarder la beauté du corps comme peu de choses. Des actions des hommes, il passera aux sciences, et il en reconnaîtra aussi la beauté. Ainsi, arrivé à une vue plus étendue de la beauté, il ne s'attachera plus à la beauté d'un seul objet, et il cessera d'aimer avec les sentiments étroits et mesquins d'un esclave. Un enfant, un homme, une action. Tourné désormais vers l'océan de la beauté et contemplant ses multiples aspects, il enfantera sans relâche de beaux et magnifiques discours, et les pensées jailliront en abondance de son amour de la sagesse, jusqu'à ce qu'enfin, son esprit fortifié et agrandi aperçoive une science unique, qui est celle du beau dont je vais parler. Tâche, dit-elle, de me prêter la plus grande attention dont tu es capable. Celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour, après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière, arrivant au terme suprême, verra soudain une beauté d'une nature merveilleuse. Celle-là même, Socrate, qui était le but de tous ses travaux antérieurs. Beauté éternelle, qui ne connaît ni la naissance ni la mort, qui ne souffre ni accroissement ni diminution, beauté qui n'est point belle par un côté, laide par un autre, belle en un temps, laide en un autre, belle sous un rapport, laide sous un autre, belle en tel lieu, laide en tel autre, belle pour ceci, laide pour cela. Beauté qui ne se représentera pas à ses yeux comme un visage, ni comme des mains, ni comme une forme corporelle, ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme une chose qui existe en autrui, par exemple dans un animal, dans la terre, dans le ciel, ou dans telle autre chose. Beauté qui, au contraire, existe en elle-même et par elle-même, simple et éternelle, de laquelle participent toutes les autres belles choses, de telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apportent ni augmentation, ni amoindrissement, ni altération d'aucune sorte. Quand on sait élever des choses sensibles par un amour bien entendu des jeunes gens jusqu'à cette beauté, et qu'on commence à l'apercevoir, on est bien près de toucher au but, car la vraie voie de l'amour, qu'on s'y engage de soi-même ou qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle, en passant comme par échelon, d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour aboutir des sciences à cette science qui n'est autre chose que la science de la beauté absolue, et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi. « Si la vie vaut jamais la peine d'être vécue, cher Socrate, dit l'étrangère de Mantinée, c'est à ce moment où l'homme contemple la beauté en soi.
Si tu la vois jamais, que te sembleront auprès d'elle l'or, la parure, les beaux enfants et les jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui, toi et bien d'autres, à ce point que pour voir vos bien-aimés et vivre avec eux sans les quitter, si c'était possible, vous consentiriez à vous priver de boire et de manger, sans autre désir que de les regarder et de rester à leur côté.
Songe donc, ajouta-t-elle, quel bonheur ce serait pour un homme s'il pouvait voir le beau lui-même, simple, pur, sans mélange, et contempler, au lieu d'une beauté chargée de chair, de couleurs et de cent autres superfluités périssables, la beauté divine elle-même, sous sa forme unique.
Penses-tu que ce soit une vie banale que celle d'un homme qui, élevant ses regards là-haut, contemple la beauté avec l'organe approprié et vit dans son commerce?
Ne crois-tu pas, ajouta-t-elle, qu'en voyant ainsi le beau avec l'organe par lequel il est visible, il sera le seul qui puisse engendrer, non des fantômes de vertu, puisqu'il ne s'attache pas à un fantôme, mais des vertus véritables, puisqu'il saisit la vérité? Or, c'est à celui qui enfante et nourrit la vertu véritable qu'il appartient d'être chéri des dieux. Et si jamais homme devient immortel, de le devenir lui aussi.
Voilà, Phèdre, et vous tous qui m'écoutez, ce que m'a dit Diotime. Elle m'a persuadé, et à mon tour, j'essaye de persuader aux autres que, pour acquérir un tel bien, la nature humaine trouverait difficilement un meilleur auxiliaire que l'amour. Voilà pourquoi je proclame que tout homme doit honorer l'amour, pourquoi je l'honore moi-même et m'adonne particulièrement à son culte, pourquoi je le recommande aux autres, pourquoi maintenant comme toujours, je loue la puissance et la virilité de l'amour autant que j'en suis capable. Tu peux voir si tu veux, Phèdre, dans ce discours un éloge de l'amour, sinon donne-lui tel nom qu'il te plaira.
Quand Socrate eut fini de parler, tout le monde le félicita. Seul Aristophane se disposait à répliquer, parce que Socrate, en discutant, avait fait allusion à un passage de son discours. Quand soudain la porte extérieure de la cour résonna, comme sous les coups redoublés d'un cortège de buveurs, et qu'une joueuse de flûte se fit entendre. « Esclave, dit Agathon, courez voir, et si c'est quelqu'un de nos amis, invitez-le. Sinon, dites que nous avons fini de boire et que maintenant nous reposons. » Peu après, on entendit dans la cour la voix d'Alcibiade, fortement pris de vin, qui criait à plein gosier
« Où est Agathon ? Qu'on me mène à Agathon ?»
Alors la joueuse de flûte et quelques autres de ses compagnons, le prenant sous les bras, nous l'amenèrent. Il s'arrêta à la porte, couronné d'une épaisse guirlande de lierre et de violette, et la tête toute couverte de bandelettes.
« Salut, ami, dit-il. Voulez-vous admettre à boire avec vous un homme qui a déjà beaucoup bu? Ou faudra-t-il nous en aller en nous bornant à couronner Agathon, ce qui est le but de notre venue?
Hier, ajouta-t-il, il ne m'a pas été possible de venir, mais aujourd'hui, me voici. » Avec ses bandelettes sur la tête, pour en couronner le front de l'homme que je proclame le plus sage et le plus beau. Vous moquerez-vous de moi parce que je suis ivre? Riez si vous voulez, je sais bien que je dis la vérité. Mais dites-moi tout de suite si je puis entrer ou non, à la condition que j'ai dite. Voulez-vous, oui ou non, boire avec moi?
Toute la compagnie l'acclama et le pria d'entrer et de prendre place à table. Agathon lui-même l'appela. Il entra, conduit par ses compagnons, et il enleva ses bandelettes pour en couronner Agathon. Comme il les avait devant les yeux, il ne vit pas Socrate, et s'assit près d'Agathon, entre lui et Socrate, qui s'était écarté pour lui faire place aussitôt qu'il l'avait aperçu. Une fois assis, il embrassa Agathon et le couronna.
« Esclave, dit Agathon, ôtez-lui ses chaussures afin qu'il s'attable entière avec nous.
Je le veux bien, dit Alcibiade. Mais quel est ce troisième convive ? En même temps, il se retourna et vit Socrate, sur quoi il sursauta et dit « Oh, Héraclès, qu'est-ceci ? Socrate ici ? Te voilà encore ici, à m'attendre en embuscade, suivant ton habitude, d'apparaître soudain là où je m'attendais le moins à te rencontrer. Maintenant encore, qu'es-tu venu faire ici ? Et pourquoi aussi t'es-tu placé là ? Pourquoi pas près d'Aristophane, ou de quelque autre plaisant, ou qui veut l'être ? Tu t'es arrangé pour te placer près du plus beau garçon de la compagnie. Agathon, dit Socrate, vois si tu peux me secourir. L'amour que j'ai pour cet homme ne m'est pas d'un petit embarras. Depuis que je me suis mis à l'aimer, il ne m'est plus permis de donner un coup d'œil, ni d'adresser la parole à un beau garçon. Autrement, jaloux et envieux, il me fait une scène, m'injurie, et se tient à peine de me frapper. Vois donc à l'empêcher de faire quelque extravagance et fais ma paix avec lui. Ou s'il veut se porter à quelque violence, défends-moi, car je tremble devant sa fureur et son amour. Non, répondit Alcibiade, il n'y a pas de paix possible entre toi et moi, mais je me vengerai de ce trait une autre fois. En attendant, Agathon, rends-moi quelques bandelettes que j'en couronne aussi la tête merveilleuse de cet homme, et qu'il ne vienne pas me reprocher de t'avoir couronné et de l'avoir oublié. Lui qui, par ses discours, est vainqueur de tout le monde, non pas seulement comme toi avant-hier, mais en toutes les rencontres. Et ce disant, il prit des bandelettes, en couronna Socrate et s'accouda sur le lit. S'étant ainsi placé, il dit « Voyons, camarade, vous me paraissez bien sobre. C'est une chose qu'on ne vous passera pas. Il faut boire. C'est dans nos conventions. Donc, pour roi du festin, je choisis, jusqu'à ce que vous ayez bu, moi-même. Maintenant qu'Agathon nous procure une large coupe, s'il en a, ou plutôt cela n'est pas nécessaire, apporte-nous enfin ce vase à rafraîchir, » dit-il en avisant un vase qui contenait plus de 8 cotyles. Il le fit remplir et le vida le premier, puis il le fit remplir à nouveau pour Socrate et dit « À l'égard de Socrate, inutile d'y mettre de la finesse. Il boira tant qu'on voudra, sans risquer de s'enivrer jamais. » L'esclave ayant versé, Socrate but. Alors Eryximaque prit la parole. « Qu'allons-nous faire à présent, Alcibiade ? Allons-nous rester ainsi, sans parler ni chanter, après boire ? Allons-nous boire tout bonnement, comme des gens altérés ?» Eryximaque, répondit Alcibiade, excellent fils du meilleur et du plus sobre des pères, salut à toi. À toi aussi, dit Eryximaque, mais qu'allons-nous faire ? Ce que tu ordonneras, car il faut obéir. Un médecin vaut à lui seul beaucoup d'autres hommes. Prescris donc ce que tu veux. Écoute, dit Eryximaque, nous avions décidé avant ton arrivée que chacun à son tour, en commençant par la droite, parlerait sur l'amour et ferait le plus beau discours possible à sa louange. Or, nous avons tous pris la parole. Quant à toi, puisque tu n'as rien dit et que tu viens de boire, il est juste que tu la prennes. Après quoi, tu commanderas à Socrate ce que tu voudras et Socrate à son voisin de droite, et ainsi de suite. « C'est fort bien dit, Eryximaque, reprit Alcibiade, mais à vouloir mettre en parallèle les discours d'un homme ivre avec ceux des gens qui n'ont pas bu, la partie ne semble pas égale. Et puis, bienheureux homme, crois-tu la moindre des choses que Socrate vient de dire ? Ne sais-tu pas que c'est tout le contraire qui est vrai ? Si en effet je loue quelqu'un en sa présence, soit Dieu, soit homme autre que lui, il ne se tiendra pas de me battre. Parle mieux, dit Socrate. Par Poséidon, reprit Alcibiade, ne dis rien là contre, car je n'en louerai pas d'autre que toi en ta présence. Eh bien, dit Eryximaque, fais comme tu l'entendras, loue Socrate. Que dis-tu, reprit Alcibiade, est-ce ton avis, Eryximaque ?
tomberai-je sur cet homme pour me venger devant vous ? »
« Hé l'ami, dit Socrate, quelle est ton intention ? Vas-tu faire de moi un éloge dérisoire ? Que veux-tu faire ? » ?»«
Dire la vérité. Voici, tu m'y autorises. »
« La vérité, je te permets et te requiers de la dire. »
« Tout de suite, dit Alcibiade,
pour toi, voici à quoi je t'engage. Si j'avance quelque chose qui ne soit pas vrai, coupe-moi la parole, sans te gêner, et dis que c'est un mensonge, car je ne veux pas mentir volontairement. Mais si je parle sans ordre, au hasard de mes souvenirs, n'en sois pas surpris. » Il n'est pas facile, dans l'état où je suis, de peindre en détail et avec suite ton originalité.
Pour louer Socrate, messieurs, je procéderai par comparaison. Lui croira peut-être que je veux le tourner en ridicule. Non, c'est un portrait réel et non une caricature que je veux tracer ainsi. Je dis donc qu'il ressemble tout à fait à ces Silènes qu'on voit exposées dans les ateliers des statuaires et que l'artiste a représentées avec des syringes et des flûtes à la main. Si on les ouvre en deux, on voit qu'ils renferment à l'intérieur des statues de dieux. Je soutiens aussi qu'ils ressemblent au satyre Marsyas. Que tu ressembles de figure à ces demi-dieux, Socrate, c'est ce que toi-même tu ne saurais contester. Mais que tu leur ressembles aussi pour le reste, c'est ce que je vais prouver. Tu es un moqueur, n'est-ce pas ? Si tu n'en conviens pas, je produirai des témoins. Mais je ne suis pas joueur de flûte, diras-tu. Si, tu l'es, et beaucoup plus merveilleux que Marsyas. Il charmait les hommes par l'effet des sons que sa bouche tirait des instruments, et on les charme encore quand on joue ses mélodies, car les airs que jouait Olympos sont, suivant moi, de Marsyas, son maître. En tout cas, qu'il soit joué par un grand artiste ou par une méchante joueuse de flûte, ses airs ont seuls le pouvoir d'enchanter les cœurs, et parce qu'ils sont divins, ils font reconnaître ceux qui ont besoin des dieux et des initiations. La seule différence qu'il y ait entre vous, c'est que tu en fais tout autant sans instrument, par de simples paroles. Quand on entend d'autres discours de quelque autre, fût-ce un orateur consommé, personne n'y prend pour ainsi dire aucun intérêt, mais quand c'est toi qu'on entend, ou qu'un autre rapporte tes discours, si médiocre que soit le rapporteur, tous, femmes, hommes faits, jeunes garçons, nous sommes saisis et ravis. Pour moi, mes amis, si je ne devais vous sembler tout à fait ivre, je prendrai les dieux à témoin de l'impression que ces discours ont produite et produisent toujours sur moi. Quand je l'entends, mon cœur palpite plus fort que celui des corybantes. Ces discours font jaillir les larmes de mes yeux, et je vois force gens qui éprouvent les mêmes émotions. En écoutant Périclès et d'autres grands orateurs, j'ai souvent pensé qu'ils parlaient bien, mais je ne ressentais pas d'émotions pareilles. Mon cœur n'était pas troublé et je ne m'indignais pas d'avoir une âme d'esclave. Mais ce nouveau Marsyas m'a souvent mis dans des dispositions telles que je trouvais insupportable la vie que je menais.
Tu ne diras pas, Socrate, que cela n'est pas vrai. Et encore maintenant, je sens bien que si je voulais prêter l'oreille à ces discours, je n'y résisterais pas, j'éprouverais les mêmes émotions. Car il me force d'avouer qu'étant moi-même imparfait en bien des choses, je me néglige moi-même pour m'occuper des affaires des Athéniens. Aussi je suis forcé de me boucher les oreilles, comme devant les sirènes, pour le quitter et le fuir, si je ne veux pas rester là assis près de lui jusqu'à la vieillesse. J'éprouve devant lui seul un sentiment qu'on ne croirait pas trouver en moi, celui d'avoir honte devant quelqu'un. Il est le seul devant qui je rougisse. Je sens bien l'impossibilité de contester qu'il ne faille faire ce qu'il ordonne. Mais quand je l'ai quitté, je sens aussi que l'ambition des honneurs populaires reprend le dessus. Aussi je le fuis comme un esclave marron, et quand je le vois, je rougis de mes aveux passés, et souvent je voudrais qu'il ne fût pas au monde. Mais s'il en était ainsi, je sais bien que j'en aurai encore plus de chagrin. C'est au point que je ne sais comment faire avec cet homme-là. » Tel est l'effet que les airs de flûte de ce satyre ont produit sur moi et sur beaucoup d'autres. Mais je vais vous donner d'autres preuves de sa ressemblance avec ceux à qui je l'ai comparé et des merveilleuses qualités qu'il possède. Car sachez-le, personne de vous ne connaît Socrate. Moi, je vais vous le faire connaître puisque j'ai commencé. En apparence, Socrate est amoureux des beaux garçons et tourne sans cesse autour d'eux avec des yeux ravis. D'autre part, il ignore tout et ne sait rien. Il en a l'air, du moins. Cela n'est-il pas d'un Silène ? Tout à fait. Ce sont en effet des dehors sous lesquels il se cache, comme le Silène sculpté. Mais si vous l'ouvrez, mes chers convives, de quelle sagesse vous le trouverez rempli ? Sachez que la beauté d'un homme est son moindre souci. Il la dédaigne à un point qu'on ne peut se figurer, comme aussi la richesse et tous les autres avantages que le vulgaire estime. Il juge que tous ses biens n'ont aucune valeur et les regarde comme rien, je vous l'assure. Il passe toute sa vie à railler et à plaisanter avec les gens, mais quand il est sérieux et qu'il sourit, je ne sais pas si quelqu'un a vu les beautés qui sont en lui. Mais je les ai vues, moi, et elles m'ont paru si divines, si éclatantes, si belles, si merveilleuses, qu'il n'y a pas moyen de résister à ses volontés. Le croyant sérieusement épris de ma beauté, je crus avoir une aubaine et une chance extraordinaires. Je comptais qu'en retour de ma complaisance, il m'apprendrait tout ce qu'il savait, car Dieu sait si j'étais fier de mes avantages. Dans cette pensée, je renvoyai pour être seul avec lui mon gouverneur, qui d'habitude ne me quittait pas, quand j'étais avec Socrate. Il faut que je vous dise ici la vérité tout entière. Prêtez-moi donc votre attention. Et toi, Socrate, si je mens, reprends-moi. Je restai en effet en tête-à-tête avec lui, mes amis, et pensant qu'il allait me tenir les propos qu'un amant tient à son bien-aimé, je m'en réjouissais déjà. Mais il n'en fut absolument rien. Il s'entretint avec moi comme à l'ordinaire, et la journée finie s'en alla. Ensuite, je l'invitai à partager mes exercices gymnastiques et je m'essayai avec lui, croyant avancer mes affaires. Puis nous nous exerçâmes souvent et luttâmes ensemble sans témoin. Que vous dirais-je, je n'en étais pas plus avancé. Comme je n'arrivais à rien par cette voie, je crus qu'il fallait attaquer mon homme de vive force et ne pas le lâcher puisque j'avais commencé avant de savoir à quoi m'en tenir. Je l'invitai donc à dîner avec moi, absolument comme font les amants qui tendent un piège à leur bien-aimé. Il ne mit pas beaucoup d'empressement à se rendre, mais il finit par céder. La première fois qu'il vint, il voulut s'en aller le dîner fini. Cette fois-là, retenu par la pudeur, je le laissai partir. Mais je lui tendis un nouveau piège, et après le dîner, je prolongeai l'entretien fort avant dans la nuit, et quand il voulut partir, je prétextai qu'il était trop tard et le forçai à rester. Il reposa donc sur le lit où il avait dîné. Ce lit était voisin du mien et personne autre que nous ne couchait dans l'appartement. Ce que j'ai dit jusqu'ici pourrait fort bien se répéter devant tout le monde. Pour ce qui suit, vos oreilles ne l'entendraient pas si tout d'abord, comme dit le proverbe, le vin, avec ou sans les enfants, ne disait la vérité. Si ensuite il ne me paraissait pas injuste, dans un éloge de Socrate, de laisser dans l'ombre cet exemple de hautaine continence. En outre, je suis comme celui qu'une vipère a piqué, il refuse, dit-on, de parler de son cas, sauf à ceux qui ont été piqués comme lui. Parce que seuls ils peuvent savoir et excuser les folies qu'il a osé faire ou dire sous le coup de la douleur. Donc moi qui me sens mordu par quelque chose de plus douloureux dans la partie la plus sensible de mon être, car j'ai été piqué et mordu au cœur ou à l'âme, donnez-lui tel nom que vous voudrez, par les discours de la philosophie, qui pénètre plus cruellement que le dard de la vipère quand il rencontre une âme jeune et bien née et qui font dire ou faire toutes sortes d'extravagances. Moi qui vois d'ailleurs un Phèdre, un Agathon, un Eryximaque, un Pausanias, un Aristomède, un Aristophane, sans parler de Socrate et des autres, tous atteints comme moi de la folie et de la fureur philosophique, je n'hésite pas à tout dire devant vous, car vous saurez excuser ce que je fis alors et ce que je vais dire à présent. Quant aux serviteurs et à tous les profanes et à tous les ignares, qu'ils mettent devant leurs oreilles des portes épaisses. Lors donc, messieurs, que la lampe fut éteinte et les esclaves sortis, je jugeai qu'il ne fallait pas biaiser avec lui, mais déclarer franchement ma pensée. Je le touchai donc en disant « Tu dors, Socrate ?»« Mais non, répondit-il, sais-tu ce que je pense ?»« Explique-toi, dit-il. » « Je pense, repris-je, que tu es le seul amant digne de moi, et je vois que tu hésites à te déclarer. Pour moi, voici mon sentiment. Ce serait montrer peu de raison de ne pas te complaire en ceci, comme en toute chose où tu pourrais avoir besoin de ma fortune ou de mes amis, car je n'ai rien plus à cœur que de me perfectionner le plus possible, et pour cela je ne crois pas que je puisse trouver d'aide plus efficace que la tienne. » Aussi je rougirais beaucoup plus devant les sages de ne pas céder au désir d'un homme comme toi que je ne rougirais devant la foule des sots de te céder. » À ce discours, il répondit avec l'ironie ordinaire qui le caractérise. « Mon cher Alcibiade, il semble bien réellement que tu n'es pas un mal avisé. Si ce que tu viens de dire de moi est véritable et si je possède le pouvoir de te rendre meilleur, en ce cas, tu aurais vu en moi une inconcevable beauté, bien supérieure à la beauté de tes formes. Or, si après une telle découverte, tu essayes d'entrer en relation avec moi pour échanger beauté contre beauté, c'est un marché passablement avantageux que tu veux faire, puisque tu prétends obtenir des beautés réelles pour des beautés imaginaires, et que tu songes à échanger en réalité du fer contre de l'or. Mais, mon bel ami, regarde-y de plus près et prends garde de te faire illusion sur mon peu de valeur. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Toi, tu es encore loin de cet âge. » Là-dessus, je lui dis, « Pour ce qui est de moi, je viens de dire mon sentiment, et tout ce que j'ai dit, je le pense. Toi, de ton côté, vois ce que tu juges le plus à propos pour toi et pour moi. » « Bien parlé, dit-il, à l'avenir nous nous consulterons pour prendre le parti le plus à propos pour tous deux, sur ce point comme sur les autres. » Après cet échange de propos, je pensais qu'il était blessé du trait que je lui avais décroché. Je me levai sans lui permettre de rien ajouter, et déployant sur lui mon manteau, car on était en hiver, je me couchai sous la vieille capote de cet homme-là, et jetant mes deux bras autour de cet être vraiment divin et merveilleux, je passai ainsi la nuit entière. Sur ce point non plus, Socrate, tu ne me donneras pas de démenti. Malgré ses avances, loin de se laisser vaincre par ma beauté, il n'eut pour elle que dédain, dérision, insulte. Et pourtant ma beauté n'était pas peu de chose à mes yeux. Jugez, car je vous fais juge de la superbe de Socrate. Sachez-le, par les dieux, par les déesses, je me levai de ses côtés après avoir passé la nuit, tout comme si j'avais dormi avec mon père ou mon frère aîné. À partir de ce moment, vous pouvez penser dans quel état j'étais. Je me croyais méprisé, et j'admirais néanmoins son caractère, sa continence et sa force d'âme. J'avais rencontré un homme introuvable à mes yeux pour la sagesse et la fermeté. Le fait est que je ne pouvais lui en vouloir et renoncer à sa compagnie, et que d'autre part je ne voyais pas le moyen de le gagner, car je le savais bien plus complètement invulnérable à l'argent qu'Ajax ne l'était au fer. et la seule amorce par laquelle j'espérais le prendre n'avait pu le retenir. J'étais donc embarrassé, et j'allais asservi à cet homme comme nul ne le fut jamais à personne. Voilà ce qui m'était arrivé quand vint l'expédition de Potidée. Nous y prîmes part tous deux, et il se trouva que nous mangions ensemble. Tout d'abord, pour les travaux de la guerre, il se montra supérieur non seulement à moi, mais encore à tous les autres. Par exemple, quand nous étions coupés de nos ravitaillements, comme il arrive à la guerre, et réduits à jeûner, les autres n'étaient rien auprès de lui pour supporter les privations. En revanche, faisions-nous bombance, il était homme à en jouir mieux que personne. Et si on le forçait à boire, quoiqu'il ne boive pas volontiers, il avait raison de tout le monde. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que jamais personne ne l'a vu ivre. Vous en aurez la preuve tout à l'heure, je pense. Pour endurer le froid, les hivers sont terribles en ce pays-là, il se montrait étonnant. C'est ainsi qu'un jour, par la gelée la plus forte qui se puisse voir, alors que personne ne mettait le pied dehors ou ne sortait que bien emmitouflé, chaussé, les pieds enveloppés de feutre et de peau d'agneau, on le vit sortir avec le même manteau qu'il avait l'habitude de porter, et marcher pieds nus sur la glace plus aisément que les autres avec leurs chaussures, et les soldats le regardaient de travers, croyant qu'il les bravait. Et voilà ce que j'avais à dire sur son endurance, mais ce que fit et supporta ce vaillant, en campagne là-bas, il vaut la peine de l'entendre. Il s'était mis à méditer et il était debout, à la même place, depuis le point du jour, poursuivant une idée, et comme il n'arrivait pas à la démêler, il restait debout, obstinément attaché à sa recherche. Il était déjà midi, les soldats l'observaient et se disaient avec étonnement les uns aux autres, « Socrate est là, debout, à méditer depuis le point du jour ». Enfin, sur le soir, quelques Ioniens, après avoir dîné, apportèrent leur lit de camp dehors, car on était alors en été, pour coucher au frais tout en observant Socrate, pour voir s'il resterait encore debout la nuit. Et lui se tint en effet dans cette posture jusqu'à l'apparition de l'aurore et le lever du soleil, puis il s'en alla après avoir fait sa prière au soleil. Voulez-vous savoir ce qu'il était dans les combats ? Car ici aussi, il faut lui rendre justice. Dans la bataille à la suite de laquelle les stratèges m'attribuèrent le prix du courage, je ne dus mon salut qu'à lui seul. J'étais blessé, il ne voulut pas m'abandonner, et il sauva tout ensemble, et mes armes, et moi-même. Pour moi, Socrate, en ce temps-là même, je priais les stratèges de te donner le prix. Sur ce point non plus, je ne crains ni reproche ni démenti de ta part. Mais les stratèges étant décidés par égard à mon rang à m'accorder le prix, toi-même tu insistas plus qu'eux-mêmes pour qu'il me fût donné plutôt qu'à toi. Voici encore, messieurs, une autre rencontre où la conduite de Socrate mérite votre attention. C'était lors de la déroute de l'armée à Délion. Le hasard m'amena près de lui, j'étais à cheval, lui à pied, en hoplite. Nos soldats étant en pleine déroute, ils se retiraient avec la chaise. Je les rencontre par hasard, et aussitôt que je les aperçois, je les exhorte à avoir bon courage, et les assure que je ne les abandonnerai pas. En cette occasion, je pus observer Socrate mieux encore qu'à Potidée, car j'avais moins à craindre étant à cheval. Je remarquai d'abord combien il était supérieur à la chaise pour le sang-froid. Je le vis ensuite qu'il a, comme dans les rues d'Athènes, s'avancer, suivant ton expression, Aristophane, en plastronnant et jetant les yeux de côté, et qui observait froidement amis et ennemis. Et il sautait aux yeux même de loin que si on s'attaquait à un tel homme, il se défendrait vaillamment. Aussi s'éloignait-il sans être inquiété, lui et son compagnon. Généralement, à la guerre, on n'attaque même pas les hommes qui montrent de telles dispositions. On poursuit plutôt ceux qui fuient à la débandade. On pourrait citer encore beaucoup d'autres traits admirables à la louange de Socrate. Cependant, en ce qui concerne sa conduite en général, peut-être en pourrait-on dire autant d'un autre. Mais voici qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il ne ressemble à aucun homme, ni du temps passé, ni du temps présent. Achille a des pareils, on peut lui comparer Brasidas et d'autres, Périclès a les siens, par exemple Nestor, Anténor et d'autres encore. À tous les grands hommes, on trouverait des pères en chaque genre. Mais un homme aussi original que celui-ci, et des discours pareils aux siens, on peut les chercher. On n'en trouvera pas d'approchant ni dans le temps passé, ni dans le temps présent, à moins de le comparer à ceux que j'ai dit, aux Silènes et aux Satyres, car lui et ses discours n'admettent aucune comparaison avec les hommes. Effectivement, c'est une chose que j'ai omis de dire en commençant, que ses discours ressemblent exactement à des Silènes qui s'ouvrent. Si en effet l'on se met à écouter les discours de Socrate, on est tenté d'abord de les trouver grotesques. Tels sont les mots et les tournures dont il enveloppe sa pensée, qu'on dirait la peau d'un injurieux satyre. Il parle d'âne batté, de forgeron, de cordonnier, de tanneur, et il semble qu'il dit toujours les mêmes choses dans les mêmes termes, en sorte qu'il n'est lourdeau ignorant qui ne soit tenté d'en rire. Mais qu'on ouvre ses discours et qu'on pénètre à l'intérieur, on trouvera d'abord qu'il renferme un sens que n'ont point tous les autres, ensuite qu'ils sont les plus divins et les plus riches en images de vertu, qu'ils ont la plus grande portée, ou plutôt qu'ils embrassent tout ce qu'il convient d'avoir devant les yeux pour devenir honnête homme. Voilà, messieurs, ce que je trouve à louer dans Socrate. J'y ai mêlé mes reproches pour l'injure qu'il m'a faite. Et je ne suis pas le seul qui l'ait ainsi traité. Il en a fait autant à Charmide, fils de Glaucon, à Eutymède, fils de Dioclès, et à nombre d'autres, qu'il trompe en se donnant comme amant, tandis qu'il prend plutôt le rôle du bien-aimé que de l'amant. Je t'avertis toi aussi, Agathon, pour que tu ne te laisses pas duper par cet homme-là, et qu'instruit par notre expérience, tu prennes garde à toi, et n'imite pas l'enfant qui, au dire du proverbe, est pris pour être appris. Quand Alcibiade eut fini de parler, on rit de sa franchise et de ce qu'il paraissait encore épris de Socrate. « On ne dirait pas que tu as bu, Alcibiade, reprit Socrate, car tu n'aurais jamais tourné si subtilement autour de ton sujet pour essayer de couvrir le but de ton discours, but dont tu n'as parlé qu'à la fin, comme d'une chose accessoire, comme si tu n'avais pas pris la parole dans l'unique but de jeter la brouille entre Agathon et moi, en prétendant que je dois t'aimer et n'aimer que toi, et qu'Agathon doit être aimé de toi et de toi seul. » Mais tu ne nous as pas trompés, nous voyons clair dans ton drame satirique et dans tes Silènes. Mais faisons en sorte, cher Agathon, qu'il ne gagne rien à ce jeu, et arrange-toi pour ne pas souffrir qu'on nous désunisse. Tu pourrais bien avoir raison, Socrate, dit Agathon. J'en juge par le simple fait qu'il a pris place entre toi et moi pour nous séparer. Mais il n'y gagnera rien, et je vais me mettre près de toi. « C'est cela, dit Socrate, viens t'asseoir à ma droite. »« Ô Zeus, s'écria Alcibiade, que me faut-il encore endurer de cet homme? Il prétend me faire la loi partout. Tout au moins, étonnant Socrate, laisse Agathon s'asseoir entre nous deux. »« Impossible, dit Socrate, car tu viens de me louer. Il faut à mon tour que je loue celui qui est à ma droite. » Or, si Agathon s'assied à ta droite, il ne me louera pas à nouveau, n'est-ce pas, avant d'avoir été loué par moi. Laisse-le donc faire, mon divin ami, et n'envie pas au jeune homme les louanges que je vais lui donner, car je désire vivement faire son éloge. Ah ah, dit Agathon, il est impossible, Alcibiade, que je reste à cette place. Je veux absolument changer afin d'être loué par Socrate. « C'est toujours ainsi, dit Alcibiade. Quand Socrate est là, il est impossible à tout autre d'approcher des beaux garçons. Voyez à présent encore comme il a trouvé facilement une raison plausible de faire asseoir celui-ci près de lui. » Agathon se levait donc pour aller s'asseoir près de Socrate, quand soudain une grosse bande de buveurs se présenta à la porte et, la trouvant ouverte par quelqu'un qui sortait, entra droit dans la salle du festin et prit place à table. Tous emplis de tumulte, les convives n'obéirent plus à aucune règle et furent contraints de boire du vin à profusion. Alors Eryximaque, Phèdre et d'autres, dit Aristodème, se retirèrent. Quant à lui, cédant au sommeil, il dormit fort longtemps. Car les nuits étaient longues, et les coqs chantaient déjà, et le jour naissait quand il s'éveilla. En rouvrant les yeux, il s'aperçut que les autres dormaient ou étaient partis, et que seuls Agathon, Aristophane et Socrate étaient encore réveillés et buvaient à une large coupe qui circulait de gauche à droite. Socrate s'entretenait avec eux. Le reste de l'entretien avait échappé à Aristodème car il ne l'avait pas suivi dès le commencement, parce qu'il s'était endormi. Mais en somme, dit-il, Socrate les avait amenés à reconnaître qu'il appartient au même homme de savoir traiter la comédie et la tragédie, et que quand on est poète tragique par art, on est aussi poète comique. Forcé de le reconnaître, mais ne suivant plus qu'à demi, il dodelinait de la tête. Aristophane s'endormit le premier, puis comme il faisait déjà grand jour, Agathon. Socrate, les ayant ainsi endormis, se leva et s'en alla. Aristodème le suivit comme il en avait l'habitude. Socrate se rendit au lycée et, après s'être baigné, y passa toute la journée à ses occupations ordinaires. Puis il rentra chez lui pour se reposer.